partager ensemble eh bien, des tas de choses, des informations, des réflexions, des inquiétudes surtout, et puis j'espère aussi un petit peu d'espérance. Alors, les inquiétudes, bon, je commence par là. La planète est en danger, c'est pas un scoop, tout le monde le sait. Vous avez vu que la grande réunion, le sommet mondial de la biodiversité qui a commencé le 29 avril dernier, eh bien, c'est conclu de façon officielle, technique, scientifique, par la conviction que nous sommes menacés par un effondrement du vivant, dans lequel nous sommes tous, les insectes, les oiseaux, les poissons et les hommes, concernés de façon dangereuse. La deuxième menace, eh bien, c'est qu'à la veille des élections européennes, l'Europe, elle aussi, est en danger. Elle est en danger parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus nombreux et qui veulent déconstruire l'Europe, en disant « ça suffit, on va changer et l'Europe n'est pas utile, elle est même dangereuse ». Elle est menacée aussi à cause des nationalismes hein, qui sont pleins de refermements sur leurs frontières. Et surtout, l'Europe est menacée par une sorte de désintérêt croissant d'élection en élection. Il y a de moins en moins de personnes qui se déplacent pour voter au Parlement européen. Et puis l'Europe, elle est menacée aussi par son fonctionnement même, qui a prouvé depuis qu'elle existe que l'Europe est incapable de relever les grands défis de notre époque. Je cite par exemple le climat, l'émigration, la fracture sociale. Alors devant tous ces dangers et toutes ces incapacités de l'Europe, eh bien, notre inquiétude est grande. Car, enfin, moi du moins, mais je ne suis pas tout seul, je reste un Européen convaincu, à condition que l'Europe ne soit pas ce qu'elle est et qu'elle soit complètement différente. Alors ce double constat, il n'est pas très original, c'est-à-dire danger de la planète, danger de l'Europe. C'est un constat qui est partagé avec beaucoup d'inquiétude par le service diocésain de l'écologie que je représente, par le CCFD Terre Solidaire qui est ici à mes côtés et par le mouvement rural de la jeunesse chrétienne, le MRJC, qui a préparé avec nous cette soirée. Et puis je pense aussi que cette inquiétude est partagée par un très grand nombre d'autres mouvements, d'autres associations et d'un très grand nombre de nos concitoyens. Alors en face de ce constat, deux convictions que nous voudrions développer ce soir. La première de ces convictions, c'est que les deux crises, la crise planétaire et la crise européenne, sont, comme le dit le pape François dans Laudato Si, liées. Car les puissances économiques et financières qui condamnent l'Europe, ce sont les mêmes qui condamnent la planète. Pour cela, il n'est qu'à se référer au chapitre 3 de l'encyclique Laudato Si qui parle des racines humaines de la crise. C'était la première conviction, pas de crise planétaire, crise européenne liée. La deuxième conviction, qui est plus constructive, j'espère, c'est que partout, des initiatives se multiplient au niveau des personnes, au niveau des mouvements, au niveau des associations, des entreprises, des municipalités, au niveau même de nos églises, puisque nous avons, comme vous le savez, un service diocésain de l'écologie qui n'a peut-être pas fait grand-chose jusqu'à maintenant, mais qui a fait ce qu'il pouvait, car il est nouveau-né et date de 2016. Alors, tout ce qui se fait à ce niveau-là, c'est bien, il faut le faire, il faut participer aux initiatives, mais tout cela reste dramatiquement insuffisant et surtout beaucoup trop lent, vu l'urgence du défi écologique qui est devant nous, et qui est le premier de cette taille de toute notre histoire humaine. Alors que si l'Europe pouvait se dégager du système économique qui l'entrave, elle pourrait jouer un rôle déterminant dans la révolution écologique radicale qui, de toute façon, est indispensable. On n'y échappera pas. Ce que je fais là, c'est un pari. Ce que nous faisons, c'est un pari. Et ce pari n'est pas gagné. Mais les élections du 26 mai prochain nous donnent l'occasion de dire ce que nous ne voulons pas, ce que nous ne voulons plus et ce que nous voulons au contraire. Alors, pour éclairer le débat, vous avez vu que dans notre affiche, on disait le système économique et social européen en débat. Pour éclairer ce débat, trois temps ce soir sur trois aspects essentiels et en plus une conférence plus globale vendredi prochain, ici même à la même heure où je vous invite depuis maintenant. Le premier temps, il est consacré à la politique agricole commune et sera animé par Vincent Lagré de la plateforme pour une autre PAC. Le second temps, eh bien, est consacré au monde financier. Il sera présenté par Bernadette Salvi avec la présence absente, mais vocale, de Gaël Giraud, qui était invité mais qui n'a pas pu venir, mais qui nous a assuré de sa bénédiction. Ce temps sera suivi d'un échange entre nous. Et puis, il y aura un troisième temps introduit par Maryse Fischer sur les multinationales à partir d'un reportage remarquable qu'elle a copié sur Arte.
Que nous avons été autorisés à diffuser.
Alors, vous voyez que c'est une soirée qui est chargée, c'est pour ça que je vais m'arrêter tout de suite, avec un temps compté, et on va essayer de gérer ce temps, de le diriger de façon parfois un peu autoritaire, pardonnez-moi depuis maintenant, j'ai des horaires qui sont très précis, on m'a dit 30 minutes, 50 minutes, 45 minutes, il y a même un temps qui s'arrête à 21h33. Alors je vais essayer de m'y tenir parce que les co-organisateurs sont des gens précis, rigoureux et qui veulent faire du bon travail. Alors sans plus attendre, je donne la parole à notre ami de l'autre PAC, c'est-à-dire Vincent Lagré, qui va se présenter lui-même.
Bonsoir à tous. Je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Vincent Lagré. Je suis en fait membre et un des référents français de Slow Food. Je ne sais pas si vous connaissez le mouvement Slow Food qui a été fondé par Carlo Petrini dans les années 90 pour promouvoir une autre alimentation, une alimentation qui soit bonne, propre et juste et qui a depuis toujours travaillé sur la préservation de tout ce qui est biodiversité alimentaire, des variétés, des races et des savoir-faire anciens. Et donc c'est à ce titre-là que je vais vous faire la présentation de la plateforme pour une autre PAC. Mais je pense que le plus simple, c'est qu'on vous montre déjà la vidéo que vous avez proposée. Puis ensuite, je vous ferai une petite présentation des positions communes de cette plateforme par rapport à la politique agricole commune.
Les amis, j'ai été contacté par le collectif Pour une autre PAC, constitué de plusieurs organisations.
Je vous mets la liste des 36 membres dans la description.
Et qui milite, comme son nom l'indique, pour une autre PAC.
Voilà, ils sont pas emmerdés au niveau du nom. T'es pour quoi, toi?
Pour un monde meilleur.
Et du coup, il s'appelle comment, votre collectif?
Pour un monde meilleur.
Eh, pas con, hein, pas con, hein. Alors du coup, trop de questions te viennent à l'esprit. Pourquoi une autre PAC? Quand? Comment? Duquel? À laquelle? Auquel? Sonia Riquel? Calme-toi, Jean-Michel, on va en parler.
Alors déjà, qu'est-ce que la PAC? Et non, ce n'est pas la grande sœur de Tupac. C'est la politique agricole commune créée par l'Union européenne en 1962, juste après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on crevait franchement la dalle. Et autant à cette époque c'était une bonne chose parce qu'on encourageait la production agricole massive, autant aujourd'hui, la PAC de l'Union européenne, c'est les subventions accordées aux agriculteurs. C'est un budget de 50 milliards d'euros par an en Europe, dont 9 milliards rien qu'en France. Et la majorité de ce pognon est reversée, vous vous en doutez, à l'agriculture intensive. Pourquoi? Eh bien parce que plus t'as de terrain, plus on te file de thunes, et quand t'as beaucoup de terrain, le plus simple c'est monoculture, pesticides et gros tracteurs de bonhomme sa mère.
Aïe aïe aïe.
Mais cette agriculture, faut-il le rappeler, détruit la biodiversité, appauvrit les sols, pollue les eaux, par contre elle fait tourner les banques, les vendeurs de semences, l'agroalimentaire et la grande distribution, le tout avec notre pognon.
Alors que pendant ce temps-là, on a perdu un tiers des oiseaux en 17 ans, que 565 000 fermes ont disparu entre 1988 et 2013, et que malgré ces subventions, un tiers des paysans vivent avec moins de 350 euros par mois. 350 euros par mois. Putain, je gagnais mieux ma vie quand j'étais au RSA.
Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, ils sont en train de négocier la prochaine PAC qui sera appliquée après 2020. Du coup, il y a une vraie fenêtre de tir pour faire changer les choses et surtout, faire taire ton pote relou qui te sort tout le temps.
Non mais attends, je t'arrête, c'est pas à nous de changer nos habitudes, c'est aux politiques de changer les choses.
Sauf que jusqu'à preuve du contraire, nos politiques, ils se fient plus au lobby et à la croissance qu'au bien commun, sinon ça se saurait. Et c'est là que le collectif Pour une autre PAC a tout son sens, puisqu'il fout la pression politique pour une révision complète de la PAC. Et croyez-moi, c'est un putain de chantier le truc.
Ce qu'il propose, une politique agricole et alimentaire qui soit juste pour tous les producteurs en Europe et ailleurs. Bonne pour la santé et respectueuse de la planète. Voilà, ça devrait être la base, mais c'est toujours pas le cas pour le moment.
Oui, bah ça va, ils vont pas commencer à nous emmerder les bouseux. On leur file des thunes quand même. Ou alors s'ils sont pas contents, ils avaient qu'à faire HEC, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pas commencer à chialer parce qu'un mec n'est pas millionnaire en faisant pousser deux carottes et trois choux-fleurs. Ouais, c'était logique à un moment.
Du coup, avec ce modèle productiviste de merde, on produit assez en volume, voire trop, et on force les agriculteurs à produire toujours plus avec toujours plus de pesticides et des machines qui fonctionnent avec toujours plus de pétrole. Résultat, pour la quantité, il y en a, mais la qualité, on repassera plus tard.
A noter d'ailleurs que les tomates pour la fabrication industrielle de ketchup bénéficient de soutiens spécifiques alors que les tomates fraîches... Eh ben non, c'est tout à fait logique.
Alors forcément, comme on a une politique de spécialisation, plutôt que de faire de la diversité, on te fait d'énormes champs de monoculture pour gagner des parts de marché à l'export, et en attendant, on n'est pas foutu d'avoir une souveraineté alimentaire. Ah super. Bravo les mecs. Ce qui est tout de même grave au niveau de la sécurité alimentaire en cas de pépin. Parce que le jour où on va avoir des problèmes d'import-export, moi je sais pas vous, hein, mais j'ai pas envie de me retrouver à manger des bols de colza matin, midi et soir. Merci mais non merci. Plus grave encore, la PAC contribue à faire une concurrence déloyale aux producteurs sur les marchés locaux d'Afrique. Oui, parce qu'on arrive à revendre notre surproduction, subventionnée avec des aides européennes, je le rappelle, en Afrique à des prix inférieurs à leur propre production. Je suis comme ça, moi. Les bras m'en tombent.
Oui, bon, bah, c'est sûr qu'il y a quelques paysans africains qui tirent la gueule. Ah, bah, ils ont fait faillite, hein, c'est la loi du marché. Ah, moi, j'y suis pour rien. Et puis bon. Quand même toujours mieux de se prendre un petit billet plutôt que de brûler nos récoltes. Hein ? Allez !
En résumé, on investit des milliards d'euros dans ce modèle qui va droit dans le mur et on oublie complètement d'inciter les paysans à faire une transition agroécologique, plus respectueuse de l'environnement, de la biodiversité, des êtres humains et du bien-être animal. Oui, je sais, amis vegans, on parle de bien-être animal alors qu'à la fin, il s'agit quand même de le buter. Bah ouais, non, mais t'as pas tort. Simplement, voilà, les gens ne sont pas parfaits, il faut s'y faire. Donc, quand je bouffe du pain, quitte à choisir, je préfère qu'une vache, elle ait chié sur un champ pour faire pousser le blé, plutôt qu'on utilise des produits chimiques. Alors, quitte à faire l'élevage, on préférera toujours ça à ça. Ouais. Cette transition aurait des effets bénéfiques pour tous, surtout dans un monde où le climat va être de plus en plus instable. Diversifier ses cultures est une bonne solution pour retrouver une souveraineté alimentaire. Parce qu'autant toi, ça te fait marrer l'été quand t'as des grêlons qui tombent du ciel gros comme des glaçons, tu peux les foutre directement dans ton pastis. Autant le paysan, lui, si toute sa récolte elle est foutue, il tire pas la même gueule. Ah bah non.
Non mais heureusement que j'ai mes 350 euros qui tombent à la fin du mois. Heureusement.
Cette transition permettrait aussi de créer de l'emploi dans l'agriculture et dans les campagnes. Parce que si on arrête les énormes champs de monoculture et les machines, bah, va falloir du monde pour travailler avec ses petites mains. On va avoir besoin de Nima. Nima, c'est le mot mignon pour dire non issu du milieu agricole. Voilà. Peut-être toi demain, on sait pas.
Oh, les bobos, oui, qui sont en quête de sens, qu'ils y disent, hein, c'est ça, en quête de sens. Oh, ils me font marrer, les bobos. Ils sont marrants, ils sont gentils. Hein?
Oui, tu sais, ce genre de mec qu'on connaît tous, là.
Non, mais les gars, mais Paris, c'est devenu invivable. C'est total l'alu ou quoi? C'est vrai qu'avec Sixtine, on a décidé, le mois prochain, on quitte tout. Hein? On se casse dans le Larzac élever des chèvres. On va faire du fromage.
Sauf que tu ne deviens pas paysan comme ça en un claquement de doigts. Tu travailles pas un matin en sachant faire du camembert. Hein? Surtout que pendant 10 ans, t'as fait des powerpoints pour les réus. Hein, mon cochon?
Et d'ailleurs, toi aussi, imaginons que t'as un métier de merde, genre banquier, community manager ou joueur de foot, et que t'aies envie d'être utile pour la société. On sait pas, on est pas en train de fuir, on sait pas. Eh ben, on pourra t'aider. Ouais, faire la transition, mon pote.
L'avantage avec une transition comme celle-ci, c'est qu'elle permettrait également d'avoir une alimentation de qualité pour tous. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, il y a des gens qui n'ont pas accès au bio pour des raisons financières, et je le comprends. Par contre, ce que je comprends moins, c'est ton pote qui a un iPhone, une iWatch, un iPad, qui part deux fois en avion en vacances dans l'année, et qui ose te dire
« Non mais le bio, c'est trop cher quoi, laisse tomber. »
Lui là, il mérite de se faire gifler avec une courge. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi c'est aussi cher que ça le bio ?
Non mais si vous voulez, le bio, c'est un peu plus cher à la production. Mais comme on sait que les bobos, ils ont du pognon, hein ? Ah si, ils ont du pognon. Du coup, nous, on en profite pour marger, mais alors comme des porcs. Ils sont cons, ces bobos.
Et je vous dis tout ça, c'est sans vous parler de tous les avantages qu'apportent les paysans sur l'environnement, sur la biodiversité, sur les paysages, sur les sols, sur le stockage de carbone, sur l'économie locale. Non, vraiment, je vous jure, on a tous besoin de cette transition. Du coup, pour en revenir à mes copains de Pour un monde meilleur, pardon, pour une autre PAC, ils lancent actuellement une campagne pour vous parler de tout ça. Ça s'appelle Tablons sur nos paysans. Ouais, je sais, ils sont forts pour les titres, les mecs.
Donc je compte sur vous pour soutenir et relayer cette campagne. Foncez sur leur Facebook, je vous mets le lien dans la description. Faites tourner les vidéos, il faut que les politiques nous entendent. Parce qu'on peut, oserais-je même dire, on doit changer les choses.
Que je vous propose, c'est de revenir un peu sur cette vidéo en vous présentant un petit peu plus en détail ce que promeut et ce pourquoi milite la plateforme. Il faudra être un peu indulgent avec moi parce que je suis pas un expert de la PAC. Hein. Je fais partie au nom de Slow Food et je trouve ça important, voilà, de répondre à l'invitation et de pouvoir vous faire part de ces positions communes. Mais voilà, soyez indulgents si jamais je n'ai pas les réponses à toutes les questions. Donc peut-être rapidement pour vous présenter un petit peu la plateforme dont il parlait. Donc cette plateforme, elle s'appelle Pour une autre PAC. Et en fait, elle rassemble de nombreuses organisations qui sont liées à l'agriculture et on va dire qui ont une réflexion un petit peu différente que le modèle dominant aujourd'hui. Cette plateforme, elle regroupe aussi bien des organisations paysannes telles que la Confédération paysanne, la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Elle comprend aussi des organisations de préservation de l'environnement comme Greenpeace, WWF. On a aussi des associations de solidarité internationale, il y a notamment le CFSI, le Comité français de solidarité internationale, et enfin aussi un collectif d'associations donc de citoyens et consommateurs, et c'est donc dans ce collectif que se situe Slow Food que je représente. Et donc cette plateforme, l'idée c'est vraiment avec tous ces acteurs qui ne partagent pas toutes les mêmes positions, mais qui partagent globalement des positions communes, de se mettre ensemble, de s'unir pour pouvoir, on va dire, peser plus sur les politiques, peser plus, contrebalancer un peu plus efficacement les lobbies et vraiment travailler, on va dire, à apporter un point de vue différent, un point de vue vraiment paysan et écologique sur la PAC aux décideurs politiques. Et donc, elle, ce sur quoi elle milite, comme vous l'avez peut-être entendu dans la vidéo, c'est une politique agricole et alimentaire commune. Et ça, c'est important, c'est de remettre l'alimentation au cœur de l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, on pense l'agriculture seulement d'un point de vue de production, mais sans forcément réfléchir, on va dire, à l'aval, à ce que ça devient et aux citoyens là-dedans. Et donc, c'est vraiment voilà, ce que défend la plateforme. Donc, une politique agricole alimentaire commune et qui a plusieurs objectifs, donc la valorisation du métier de paysan qui puisse décemment vivre, la durabilité de l'agriculture par rapport aux enjeux environnementaux qu'on parlait juste avant, la souveraineté alimentaire, que les citoyens soient en capacité voilà, de décider de leur alimentation et des politiques agricoles qui sont liées, le respect du bien-être animal bien sûr, la dynamisme du tissu rural. Il faut savoir que voilà, il y a plus en plus de producteurs qui partent à la retraite et qui ne sont pas remplacés. C'est de pire en pire. On est presque 40% des agriculteurs qui partent d'ici 3 ans et qui ne seront peut-être pas renouvelés. Donc il y a aussi cette question importante de voilà, comment on va remplir les campagnes. Et puis la cohérence avec le développement des paysans du Sud et enfin la lutte contre les changements climatiques. Donc avant de rentrer tout de suite dans les positions, rapidement, donc la PAC, comme il a dit, donc elle est mise en place en 1962 avec comme objectif de nourrir l'Europe. On est dans une situation où la production est vraiment faible. Il y a une grosse dépendance notamment vis-à-vis de la Russie sur tout ce qui est céréales. Et donc il y a cette volonté de l'Europe un peu de reprendre en main la production, de moins dépendre des autres. Et donc avec un objectif vraiment assez productiviste de assez vite être en capacité de répondre à la demande. Et donc on va avoir une PAC qui va vraiment être basée plus sur un objectif quantitatif qui va au final rapidement atteindre. Et malheureusement, une fois atteint, on va dire que la PAC n'a pas réussi ensuite s'orienter vers du plus qualitatif, mais est restée vraiment dans ce modèle productiviste et quantitatif. La PAC aujourd'hui, donc, c'est vraiment un point important du système européen dont on parlait. C'est quand même 40% du budget. C'est vraiment la politique la plus intégrée et la plus forte de l'Europe. Cette politique, elle se base, on va dire que la PAC, il y a un peu 3 piliers, comme on dit. Il y a un premier pilier, c'est vraiment le pilier le plus important. C'est les aides directes, c'est 70% du budget. C'est l'objectif étant vraiment en fait, d'offrir un revenu de base aux producteurs pour le soutenir. Mais ce revenu, en gros, est lié à la surface. Donc c'est un revenu à l'hectare. Donc forcément, plus les agriculteurs ont d'hectares, plus les aides directes seront importantes. Et donc forcément, avec ce genre de système, c'est ce qui amène à la volonté d'agrandissement et qu'on ait des fermes qui augmentent toujours plus, hein, que ce soit les fermes céréalières en Île-de-France ou même nos exploitations en Franche-Comté laitières qui produisent du lait à Comté. On est sur le même modèle avec vraiment un agrandissement des exploitations qui sont une conséquence directe de ces aides. Un deuxième pilier qui, lui, est le développement rural. Ce pilier-là, il est cofinancé aussi par l'argent national, contrairement à la PAC qui est 100% financée par l'Europe. Et en gros, on va dire que ce deuxième pilier soutient des modes de production un peu spécifiques, par exemple comme l'agriculture biologique ou alors des zones géographiques, on va dire, qui vont freiner des rentabilités de production comme des zones de montagne ou des zones de moyenne montagne. Et enfin, l'organisation commune des marchés qui, elle, a été mise en place, qui est dans l'optique d'en faire un outil de régulation des marchés et de régulation de la production, qui s'avère aujourd'hui vraiment fantôme. Et je pense que vous aviez dû entendre parler sur les quotas laitiers. Par exemple, les quotas laitiers ont été arrêtés ces dernières années. Et c'était justement avant l'Organisation commune des marchés, donc, qui gérait et qui contrôlait la production laitière. Et donc en France, sur notre cas national, donc, la PAC, c'est quand même 9 milliards d'euros par an. On est bien sûr les premiers bénéficiaires de la PAC. Et donc elle est gérée par le ministère de l'Agriculture et par les régions pour le second pilier depuis la dernière PAC. Donc ça a aussi été un changement qui a été compliqué parce que les régions n'étaient pas forcément prêtes à assumer la gestion de certaines aides et elles ont dû y faire face. Pour faire un mini bilan de la PAC, donc la PAC qui est en cours, c'est entre 2015 et 2020. Et donc là, la prochaine PAC sur laquelle moi je vais parler, c'est celle qui va courir de 2021 à 2027. Et donc qui est en ce moment en cours de négociation. Alors la dernière PAC, malheureusement, elle n'avait pas répondu du tout aux attentes, que ce soit sociétales et aussi par rapport au réchauffement climatique, elle n'a pas répondu. On a déjà une PAC qui a été coûteuse pour peu de bénéficiaires, elle n'est pas du tout équitable, elle est mal répartie, on est toujours sur ce même dogme des aides à l'hectare, donc plus je suis grand, plus je touche d'aide, et donc on n'a pas freiné cet agrandissement, on est toujours, on finance les plus grosses exploitations, et donc on finance des modèles qui sont plus industriels, et au contraire des petites fermes et des fermes diversifiées, elles vont forcément avoir plus de mal. Elles vont être en concurrence déloyale forcément avec les gros qui eux touchent beaucoup plus d'aide, et donc sur le produit à la fin, forcément c'est plus difficile. Donc ça, c'est un premier bilan négatif. Le deuxième, c'est toujours pareil, que cette PAC, comme je vous ai dit, et comme depuis le début, ils n'ont pas changé ça, c'est vraiment dans un mode de pensée productiviste. On veut produire, et elle n'est pas liée à la demande citoyenne. Aujourd'hui, la demande, elle veut du bio, elle veut du local, elle veut qu'on relocalise une partie de l'alimentation, mais ça ne se retrouve pas du tout dans la PAC. Ça ne se retrouve pas du tout, l'agriculture bio... Ils ont même arrêté l'aide au maintien pour les agriculteurs biologiques. Donc on est même en déclin par rapport à il y a 10 ans. Donc là, c'est un peu dur. Ça favorise vraiment la spécialisation plutôt que la diversification que veulent les citoyens. Et puis aussi la santé qui est pas prise en compte. On n'a pas du tout de règlement assumé par la PAC sur la question des pesticides, par exemple. Ensuite, la concurrence déloyale dans les pays du Sud. Alors là, c'est le lien au... notamment quand il parlait de l'Afrique, on n'a pas du tout de régulation de nos productions, et encore pire avec la fin des quotas laitiers, et vraiment, il y a beaucoup de notre production qui est subventionnée par nos impôts et qui vient sur les marchés africains, sud-américains, asiatiques, forcément de la concurrence déloyale, parce qu'eux n'ont pas leur agriculture subventionnée, et on vient leur mettre des produits à très bas coût, avec lesquels ils peuvent pas faire concurrence. Et enfin, dernier point, la transition écologique. Là aussi, il y a une volonté de verdir un peu, si on peut dire ça comme ça, la PAC. Mais ça a vraiment été très faible. Ils ont mis en place une politique de verdissement, mais ça n'a pas été efficace. La Cour des comptes a dit que ça n'avait pas marché. Et en fait, c'était plus dans une optique de... Enfin, ça n'accompagnait pas une transition écologique, on va dire. Ça récompensait, entre guillemets, des pratiques qui étaient déjà en place, mais pas très restrictives, donc c'était pas très intéressant. Ce que je vais vous présenter, c'est donc le point de vue de toutes ces organisations donc, qui sont représentées au sein du collectif. Et au sein de ces positions, vous allez pouvoir aussi voir un peu la vision, cette vision de l'agriculture et de l'alimentation qu'ont en commun toutes ces organisations, que ce soit la CONF, que ce soit la FNAB, que ce soit Greenpeace et d'autres. Donc tout d'abord, comme je vous ai dit, ce qui est au cœur de cette volonté, c'est d'avoir quelque chose qui soit citoyen, et donc c'est de co-construire la PAC avec les citoyens et les acteurs publics de l'environnement et de la santé. C'est vraiment de remettre la société civile aussi au cœur des décisions et qu'ils puissent avoir un impact sur la définition de la politique agricole commune. Aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas. Soutenir les productions en faveur d'une alimentation saine et de qualité. L'idée étant ici de rajouter des aides en fait pour les filières qui sont un petit peu fragiles et qui ont besoin, on va dire, d'un coup de pouce en particulier. Je vous prends un exemple. Ici en Franche-Comté, on a beaucoup de produits laitiers, bien sûr. On n'a presque pas de fruits. On est en manque de légumes frais. Pas forcément beaucoup de légumineuses. L'idée, c'est quoi ? C'est de rajouter une aide pour les personnes qui veulent produire ces productions qui sont aujourd'hui plus faibles et pour pouvoir arriver tout doucement et essayer d'atteindre une certaine autonomie au niveau de notre alimentation. Et donc aussi de motiver des porteurs de projets à pouvoir s'installer dans ces filières qui aujourd'hui sans aide sont assez compliquées. Ensuite, développer des dynamiques locales d'approvisionnement alimentaire qui répondent aux attentes des citoyens. Donc là, c'est soutenir à travers la PAC les projets alimentaires territoriaux. Le Grand Besançon est un projet alimentaire territorial. L'idée étant de relocaliser notre alimentation, notre production, et de réfléchir à travers le Grand Besançon comment on relocalise la consommation. Et donc, aujourd'hui, c'est que des financements nationaux. L'idée, c'est de le faire passer aussi à l'Europe, de travailler sur des filières qui apportent de la valeur ajoutée sur nos territoires. On n'a pas de pâte ici, il y a quand même des producteurs de céréales. Est-ce qu'on ne peut pas les soutenir pour produire des pâtes avec eux? Et puis aussi, la question de la restauration collective. Aujourd'hui, la restauration collective s'approvisionne très peu en local et en bio. Est-ce que ce n'est pas aussi la PAC qui doit venir absorber le surcoût du bio et du local au départ? C'est des questions qui se posent et c'est ce pourquoi milite la plateforme. Et enfin, rendre l'agriculture biologique. Donc là, c'est vraiment de renforcer les financements qui vont pour l'agriculture biologique. Comme je vous l'ai dit, on est plutôt sur un recul qu'une avancée. Donc il y a vraiment ce besoin de renforcer les financements pour l'agriculture biologique. Un deuxième grand axe, c'est sur la transition agroécologique. Vous l'avez dit, la biodiversité, les sols, on va dire tout est compliqué et tout porte à du pessimisme et il est vraiment temps d'agir. Et donc la transition agroécologique, quand on sait que l'agriculture est le premier à émettre des gaz à effet de serre, est le premier à déforester les forêts, est le premier en fait à avoir un impact sur le réchauffement climatique, il est grand temps que la PAC, qui régit toute l'agriculture de l'Union européenne, prenne ce pas. Et donc l'idée, c'est déjà de financer la transition agroécologique des fermes, que la PAC accompagne les producteurs à changer leurs pratiques et à aller de plus en plus vers des modes de production biologiques, exemple de pesticides, à reconnaître les pratiques. Là, c'est l'idée de sortir d'un système où on veut aider des paysans. En fait, c'est pas qu'on les aide, faut qu'on les paye. Faut qu'on les paye pour les services qu'ils rendent à notre société, les services qu'ils rendent par rapport à la gestion des paysages, par rapport à la préservation des eaux quand ils n'utilisent pas de pesticides, par rapport à la biodiversité quand ils mettent des haies. Et donc on doit vraiment repenser notre modèle. Ce n'est pas des aides qu'on doit leur donner, c'est vraiment des paiements pour tous les services qu'ils offrent à la société. Aujourd'hui, un tiers des agriculteurs gagnent environ 300 euros par mois. Est-ce que c'est normal quand c'est eux qui nous nourrissent? Faut vraiment revoir et plutôt les payer pour les services qu'ils offrent. Ensuite, rendre les conditions d'octroi et des aides plus efficaces. Donc là, en fait, c'est les conditions pour lesquelles les agriculteurs ont le droit à la PAC. Et là, je pense qu'il faut vraiment renforcer. Il faut qu'il y ait des seuils maximum qui soient imposés sur l'utilisation de pesticides, qu'il y ait des réglementations qui doivent respecter des conditions sociales. Aujourd'hui, même si ces employés sont des clandestins et qu'ils les traitent sans respecter le code du travail, il peut avoir la PAC. Donc il faut revoir ça, il faut que ça crée une conditionnalité de social et de bien-être animal. Aujourd'hui, le bien-être animal n'est pas du tout un critère et une condition pour avoir le droit à la PAC. Je pense qu'il est temps de la mettre dans les conditions. Et enfin, gérer les risques sanitaires et climatiques en amont. La PAC finance aussi les assurances privées pour qu'elles viennent en gestion des risques des paysans. Il vaut mieux prévenir que guérir, donc le travail se fait plutôt en amont. Et enfin, une PAC équitable. Donc, comme je vous ai dit, le revenu des agriculteurs est vraiment faible. L'idée est vraiment que cette PAC soit équitable et qu'elle permette vraiment aux agriculteurs d'avoir un revenu décent. Et donc là, c'est de mettre forcément un peu de maîtrise dans les volumes de production et dans les prix pour qu'on n'arrive jamais à des prix trop faibles. Stimuler l'emploi agricole. Aujourd'hui, il est vraiment important, comme je vous ai dit avec ces chiffres, vraiment important de motiver l'installation des nouveaux agriculteurs, accompagner l'installation donc de tous les projets paysans et enfin mettre fin aux importations et exportations qui nuisent aux paysans dans les pays du Sud comme au Nord. Comme je vous ai dit, il y a des produits qui vont sur les marchés. Vous saurez, je crois que c'est l'OMC qui interdit de subventionner son agriculture. Bien sûr, c'est les États-Unis et l'Europe qui dictent ça, alors que l'agriculture et les États-Unis a l'agriculture la plus subventionnée au monde, et pourtant elle le refuse aux autres, et elle vient mettre ses produits en concurrence avec les paysans du Sud. Donc voilà, c'est pas possible. Et donc l'idée forte de la plateforme, c'est en gros qu'il y ait un remboursement des aides quand une production sort des frontières. C'est-à-dire que un céréalier va avoir tant d'euros d'aide pour la production de céréales, et bah, si ces céréales ils vont à l'export, il rend ses aides, parce que ces aides elles doivent pas contribuer à déstabiliser la paysannerie des pays du Sud. Donc voilà, c'était vraiment pour vous présenter un peu ce mode de pensée. C'est vraiment important, et la PAC joue vraiment beaucoup. L'agriculteur conventionnel est aussi beaucoup plus... est vraiment très compétitif parce qu'elle a aussi ses aides. L'agriculture bio est peut-être chère parce que les aides sont placées au mauvais endroit, et donc c'est vraiment très important de peser là-dessus et, on va dire, d'interpeller les décideurs politiques par rapport à ça, surtout que pour aujourd'hui, dans les négociations qui ont eu lieu, bon, ils s'occupent surtout du Brexit, hein, comme vous imaginez, mais voilà, on ne va pas dans le bon sens, on reste dans une logique capitaliste et d'économie de marché et pas vraiment de politique agricole commune qui fait face au changement climatique.
Moi, ma question, c'est sur qui et sur quoi peut reposer l'espoir d'imposer cette nouvelle PAC ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des partis politiques qui la reprennent en charge, des hommes politiques, des personnalités ? C'est-à-dire, en 2021, il y a un peu de temps, mais est-ce que ça représente un certain rapport de force pour l'imposer ?
Bon, alors c'est compliqué, surtout que moi je suis vraiment pas... j'habite à Besançon comme vous, je suis pas du tout dans les gens qui s'occupent de là-bas, qui sont dans vraiment le lobby, mais ce qui est sûr c'est que les partis politiques qui soutiennent, ils vont plus être... C'est surtout ceux qui sont le plus à gauche. Hein. Après, sur le rapport de force, il est vraiment compliqué, parce que voilà, il y a des syndicats et une industrie qui est très très puissante, et c'est pour l'instant El Calmo, et on le voit encore hein, avec la... La PAC qui est en train d'être négociée, ça va pas dans le bon sens. C'est toujours une logique capitaliste et d'économie de marché. On peut toujours entendre des gens qui vont dire « faut arrêter de nous mettre des normes environnementales, on va rater les marchés chinois ». Alors qu'est-ce qu'on s'en fout des marchés chinois ? Mais voilà, on est toujours dans cette logique-là. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a les élections européennes. Alors bon, une super voix, mais c'est mieux que rien. Ça peut quand même jouer d'avoir des députés européens qui en ont plus conscience que d'autres. Et puis après, bah, c'est aussi dans notre mode de consommation à nous de tous les jours de refuser tous les produits qui vont dans le mauvais sens. Mais c'est sûr que le rapport de force, il est aujourd'hui vraiment inégal.
Bonsoir, je m'appelle Jean-Pierre. Je veux simplement parler de quelques bonnes pratiques, parce que effectivement, on a vu que c'est un peu désespérant. Alors parmi les bonnes pratiques, la première, c'est que toutes ces belles mesures qui sont envisagées vont être bien entendu portées par les systèmes institutionnels normaux. C'est-à-dire en France, par effectivement la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles, des jeunes agriculteurs, essentiellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grand changement. Les citoyens dont il est question, ils sont peu présents. Donc là, il y a déjà un point d'interrogation. Par contre, je vous ai mis sur la table, là-bas au bout, un livre d'un monsieur qui s'appelle Benoît Biteau. Et ce livre s'appelle « Paysans résistants ». Je vous invite, disons, sous une forme ou sous une autre, à pouvoir le consulter dans une bonne bibliothèque ou de l'acheter. C'est très intéressant, c'est hilarant, c'est une histoire de vie. Le papa de ce monsieur était un grand responsable en Poitou-Charentes de tout ce qui était le Crédit Agricole, la Fédération des syndicats agricoles, Groupama, etc. Il faisait du maïs irrigué, doublement subventionné par la PAC, pour le maïs et pour l'irrigation. Ça continue. Hein. Et son fils, Benoît, il a fait quelque chose d'incroyable. Il a changé tout ça. Il a installé sur son exploitation de l'agroécologie. Il a planté des arbres, il a remis les animaux traditionnels. Bon, donc concrètement, l'agroécologie, c'est pas qu'un discours, c'est des faits, et c'en est un. Et puis il raconte tous ses avatars avec plein de gens intéressants. Hein. Parce que vraiment politiquement, à une certaine époque, il était vice-président de la région Poitou-Charentes, et il a fait accorder par le conseil régional effectivement des aides pour tout ce qui était agroécologie, biologique et alimentation de qualité. Donc ça, voilà, c'est des exemples très concrets qui montrent que des choses ont été faites. Puis en ce qui nous concerne, nous, tous les jours, ben, disons, on peut choisir de faire un certain nombre de choses. On peut faire partie d'une AMAP, on peut aller faire ses courses sur le marché local de Palente ou ailleurs. etc., etc. Donc je crois qu'on peut à la fois voir la vision telle que vous nous l'avez montrée, et puis agir soi-même avec d'autres. Puis je terminerai, bon, effectivement, il y a aussi des associations, des structures comme Terre de Liens, qui fait partie d'ailleurs de la plateforme, qui propose également de mettre de l'épargne, votre épargne, sous des formes à la fois, disons, effectivement dans une foncière ou dans une fondation, pour permettre l'installation d'agriculteurs qui respectent le cahier des charges de l'agriculture biologique. Donc ça fait partie également des éléments que je vous invite à regarder tranquillement et de dire, oui, on peut ensemble faire des choses de cette nature, et c'est pas tout seul qu'on est, mais c'est tout seul et dans le cadre, disons, de toutes les propositions qui ont été faites. Merci.
Voilà, bien, un grand merci à Vincent, un grand merci aussi à Jean-Pierre pour le complément qu'il vous a apporté, et puis une indication du livre oui. qui est à notre portée là-bas. Nous sommes juste dans les temps, alors on va peut-être s'arrêter là pour les questions, et on va passer à un autre volet qui concerne l'Europe, c'est-à-dire le monde financier. Et là, c'est...
Oui, donc simplement, il me fait dire une chose, j'ai mis aussi quelque chose là-bas. Il y a actuellement une des principales fermes en agriculture biologique dans le Jura, qui est en cours d'acquisition par Terre de Liens. Et bon, c'est intéressant de savoir effectivement qu'il y a des actions concrètes.
Voilà, ben nous allons vous proposer maintenant un extrait d'interview de Gaël Giraud. Alors, vous pourrez retrouver l'intégralité de cette vidéo intitulée « Tsunami financier, désastre humanitaire » sur YouTube. Voilà. Gaël Giraud, beaucoup connaissent ce prêtre jésuite, économiste en chef à l'Agence française de développement, chercheur au CNRS. Certains d'entre vous ont peut-être assisté à sa conférence donnée en octobre 2014 à Besançon. Il nous exposait déjà que le dérèglement climatique et la finitude des ressources constituent un enjeu infiniment plus important que l'économie et présentaient la transition énergétique comme seule lumière au bout du tunnel. Hélas, depuis 5 ans, les rapports du GIEC sont de plus en plus alarmants. Les engagements déjà pris à minima à Paris lors de la COP21 sont loin d'être tenus. La disparition de la biodiversité lui font dire à présent que si un changement de cap radical n'est pas pris, il y va de la survie même de l'espèce humaine. Ce message est de plus en plus relayé par la société civile. En témoignent les mobilisations citoyennes dans de nombreux pays lors des marches pour le climat. Beaucoup individuellement changent de mode de vie, mais si ce changement est nécessaire, il est loin d'être suffisant. Gaël Giraud connaît bien les milieux politiques et financiers et fait le constat que malgré la gravité de la situation dont elle a conscience, la puissance publique n'est pas prête à remettre en cause un modèle économique et social mis en place depuis plus de 40 ans. Voilà, la situation est grave, mais pour lui, pas désespéré. Et je vous laisse découvrir les pistes qu'il propose pour essayer de changer de cap.
Gaël Giraud, bonjour.
Bonjour.
Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ?
Gaël Giraud, je suis actuellement l'économiste en chef de l'Agence française de développement, qui est une banque publique à but non lucratif qui finance des projets de développement dans les pays des Sud. Je suis également directeur de recherche au CNRS en économie, directeur de la chaire énergie et prospérité, prof à l'école des ponts, et jésuite, prêtre catholique romain. Donc moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a énormément de communautés locales qui se créent pour essayer d'inventer un style de vie écologique. Un exemple, c'est le magnifique campus de la transition écologique à Forges, près de Montreux, auquel je contribue, qui est un château du XVIIIe siècle dans lequel une communauté qui vit là, hommes, femmes, religieux, laïcs, pas religieux, etc., apprend à vivre de manière écologique. Donc ça veut dire tout le monde est végétarien, on fait de la permaculture, on mange les produits du jardin. Et l'idée, c'est que ça devienne un centre de formation, d'apprentissage, où on apprend et on vit ce qu'on apprend. Voilà. Alors, il y a des initiatives du même type qui sont prises dans le monde. Je peux en citer 2 au moins, parce que je les ai visitées, j'y ai vécu un petit peu. Vous avez le Schumacher College à Totnes, en Angleterre, et puis le Sustainability Institute à Stellenbosch, en Afrique du Sud, qui font mutatis mutandis la même chose. C'est-à-dire, c'est un lieu de formation. Vous donnez des cours avec des étudiants et dans le même temps, tout le monde va faire de la permaculture au jardin, mange les produits du jardin. Toute l'électricité provient de photovoltaïque décentralisée dans l'éco-village alentour. Tous les déchets sont recyclés, l'eau est recyclée, etc., etc. On apprend à vivre d'une manière qui soit compatible avec le respect, disons, des écosystèmes dans lesquels, des milieux dans lesquels nous vivons.
Voilà. C'est pas un peu un pansement sur une jambe de bois, pour résumer, je vais me faire l'avocat du diable. Ouais. Hein. Ce petit camp de hippie où tout le monde il est content et fait son petit chou-fleur, est-ce que c'est extrapolable sur...
C'est une bonne remarque, hein. C'est une très bonne remarque. Ma réponse, c'est la suivante, c'est indispensable, mais c'est non suffisant. C'est-à-dire, je crois qu'il y a deux écueils. Un premier écueil qui est de croire qu'on va pouvoir relever le défi de la décarbonation de nos économies sans nous-mêmes changer notre style de vie perso. Ça, c'est juste pas possible. Donc, il faut que les hommes acceptent de ne plus manger de viande rouge. Voilà. C'est dur pour eux, parce que là aussi, il y a un investissement. On parlait de sexualité et de pouvoir tout à l'heure, mais c'est un rapport aussi avec le caractère carnivore de l'être humain. Quand on mange de la viande, on se rassure, parce qu'on se prouve à soi-même qu'on est tout en haut de la pyramide des prédateurs sur la planète, et qu'on n'a pas de prédateurs au-dessus de nous. Il faut lâcher ça, et arrêter de manger de la viande rouge. C'est pas du tout évident. Regardez autour de vous les hommes adultes qui sont végétariens. Donc premier écueil, croire qu'il ne faut pas changer notre style de vie le plus élémentaire. Deuxième écueil, croire que ça suffit. Évidemment, ça ne suffit pas. Donc ce n'est pas des petits clubs hippies, c'est un apprentissage existentiel profond de la manière dont je dois changer mon mode de vie. Dans le même temps, il faut évidemment que la puissance publique et le secteur privé changent complètement de braquet sur la question écologique.
Est-ce qu'ils sont prêts à faire ça ? Quand on voit que, si je peux me permettre d'utiliser des grands mots, cette oligarchie politique formatée depuis des décennies, voire certaines générations, depuis des générations, est-ce que tu sens ce basculement, ce changement de paradigme au sein même de nos élites ?
Il y a, à mon avis, alors, il y a aussi des politiques qui bossent et qui ont compris les enjeux écologiques. De mon point de vue, et ça rejoint un tout petit peu ce qu'on se disait il y a quelque temps, le lieu de la résistance la plus profonde, c'est la finance. Ce n'est pas tellement la classe politique. La classe politique, en fait, quand même, aujourd'hui, a compris la gravité de l'enjeu. Ce que je peux raconter pour illustrer ça, c'est une discussion que j'ai eue avec des financiers de la City à Londres, il y a quelques mois, où on a passé une journée à la Royal Academy of Science, dans un endroit magnifique d'ailleurs, sur les questions écologiques et, disons, la gravité du désastre écologique et l'enjeu du financement de la transition énergétique vers des énergies renouvelables. On a eu un certain nombre de discussions, d'abord sur le diagnostic écologique, qui montrait que tout le monde autour de la table était bien informé. Donc mes interlocuteurs savaient, ont compris, que nous allons vers des effondrements de type régional, continental, que le Sahel est dans une position extrêmement difficile, qu'on va avoir des millions, des dizaines de millions de réfugiés climatiques qui vont courir dans tous les sens sur la planète pour aller chercher un endroit pas hostile à la vie humaine, dans les années qui viennent. Ils ont compris que la fonte du pergélisol, ce qu'on appelle le permafrost en anglais, aussi bien à la surface de la Terre, donc Sibérie, Alaska, Groenland, que sous la mer...
Avec les hydrates de carbone qui explosent.
Les hydrates, qui vont lâcher du méthane, que ça, si ça s'accélère, ça veut dire qu'on se prend plus 5, 6, 7, 8 degrés, et personne ne sait où ça s'arrête, dans les décennies qui viennent. Ça veut dire que la survie de l'espèce humaine est en jeu. C'est ça que ça signifie. Alors aujourd'hui, on n'a pas d'évidence empirique qui montre qu'on en est déjà là, mais on n'a pas d'évidence empirique qui montre le contraire. Donc il y a un débat extrêmement intense et angoissé à l'intérieur de la communauté scientifique sur la mesure des émissions de méthane à la surface de l'océan Arctique. Voilà. En fait, on manque de mesures. Mais la réalité de ce débat traduit quand même le fait que nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement dangereuse.
Tes copains de la City, ils ont fini comment ? Ils sont un peu bourrés ? Ils se sont dit, voilà, les gars...
Une fois qu'on a dit tout ça, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Et, en gros, le message de ceux qui étaient là, donc ils ne sont pas forcément représentatifs de la totalité de la City, mais en tout cas d'un certain nombre de financiers qui ont du pouvoir, ça a été, on ne fera rien. Nous, les Européens. Pourquoi ? Essentiellement parce que ça nous obligerait à détricoter ce que nous avons mis 40 ans à mettre en place, c'est-à-dire la capture du régulateur, de la puissance publique, le démantèlement de l'État-providence, l'indépendance de la Banque centrale européenne, la privatisation des profits, la mutualisation des pertes, etc. etc. Évidemment, ce n'est pas dit de manière aussi caricaturale et grossière que ce que je viens de dire, mais c'est quand même ça le message essentiel. on n'est pas prêt à, disons, remettre en cause le modèle social qu'on a mis en place, hyper inégalitaire, pour les questions écologiques. Donc, à ce stade de la discussion, avec d'autres, je ne suis pas le seul, je demande, mais donc, que va-t-il se passer ? Réponse, ah, les Chinois vont faire le boulot. Pourquoi ? Parce que, me disent-ils, la Chine, elle, elle a un pouvoir dictatorial, non démocratique, autoritaire, qui lui permet de faire le boulot, le sale boulot. Et elle, elle va transiter vers des énergies renouvelables. C'est le plus gros pollueur de la planète aujourd'hui, ce qui est vrai. Donc, on va laisser les Chinois faire le boulot. Bon. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là ? Alors, ils me répondent, ben, nous, eux, les financiers, ces financiers-là, on va mettre nos enfants en Suède, parce qu'avec le réchauffement climatique, le climat suédois sera clément. Ce qui est évidemment une illusion parfaite, parce que les incendies des forêts suédoises l'été dernier ont montré que les écosystèmes naturels suédois vont également souffrir énormément du dérèglement climatique. Et au fond, la migration du vivant de l'équateur vers les pôles va affecter y compris la Suède, bien sûr. Donc il n'y a pas d'île déserte où les très très riches vont pouvoir aller se cacher.
Un petit bunker.
Ah non, ils vont devoir se faire des bunkers. Mais c'est très désagréable de vivre dans des bunkers. Cette vie bunkerisée dans les gated communities fera souffrir y compris les plus riches. Mais pour l'instant, ceux que j'ai rencontrés, en tout cas ceux avec qui je parlais ce jour-là, à Londres il y a quelques mois, étaient encore dans cette espèce de fantasme de « il existe une île déserte où on va pouvoir se cacher et laisser les autres payer la facture à notre place ». Voilà. Donc ça, là, il y a un lieu de résistance très très fort auquel que j'observe. Voilà. Les classes politiques qui sont actuellement au pouvoir ne sont pas nécessairement enfermées dans ce cynisme-là, mais elles naviguent là-dedans. C'est compliqué pour elles. Donc elles naviguent entre, disons d'un côté, les gilets jaunes ou les gilets rouges en Tunisie ou d'autres manifestants, les lycéens qui vont manifester dans la rue pour le climat, etc., sur la planète entière, qui leur disent « écoutez, ça suffit, maintenant il faut prendre la question écologique au sérieux ». De l'autre côté, un système financier qui ne prend que très très lentement la mesure de la gravité de la situation écologique et de ce que ça implique de déstabilisation de la sphère financière elle-même. Donc vous avez un financier qui l'a dit de manière très forte en septembre 2015, c'est Mark Carney, le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, qui a, pour la première fois, et ça a été un vrai coup de tonnerre hein, dans la sphère financière, qui a dit « la principale menace de la stabilité financière aujourd'hui, c'est le climat ». Mais vous avez là-dedans une sphère financière avec évidemment quelques financiers qui ont très bien compris la gravité de l'enjeu et qui essaient de se démener comme ils peuvent. Quelques assureurs qui, parce qu'ils font des pertes de plus en plus fortes à cause de l'impact du dérèglement climatique, commencent à comprendre qu'il va falloir prendre la chose au sérieux puisque leur propre business pourrait être impacté dans les années qui viennent. Donc vous avez le patron d'AXA qui dit il y a 2 ans, une planète à 4 degrés Celsius n'est pas assurable. Donc il va y avoir des tels dégâts sur le patrimoine de capital que nous, on ne pourra plus assurer. Mais tout ça dans un contexte où la très grande fragilité bilancielle d'un certain nombre de banques et l'explosion des dettes privées qui fragilisent la totalité de l'édifice financier fait qu'aujourd'hui, une bonne partie de la sphère financière ne sait pas où aller, que faire. Vous voyez, elle est prise entre un volcan qui va exploser, c'est son propre crack interne, et puis le tsunami qui lui tombe dessus qui est... le dérèglement climatique. Et donc, là-dedans, pour l'instant, ils n'ont toujours pas... enfin, en tout cas, ceux avec qui je parle n'ont toujours pas pris de décision forte, en tout cas collectivement. Et la classe politique, qui est très dépendante de la sphère financière, pour toutes les raisons qu'on a dites tout à l'heure, pour l'instant, ne prend pas la mesure de l'urgence écologique.
Pierre Laroutourou, ça te parle ?
Oui, bien sûr, je connais bien, c'est un ami, oui.
Son initiative de lever 1000 milliards pour sauver le climat. C'est du wishful thinking, 1000 milliards, c'est pas assez. Quand tu dis que cette transition écologique, ça va durer 100 ans et ça va coûter très très cher, ça coûte combien ?
Les chiffres, alors il y a une bagarre de chiffres. Alors, en gros, si on veut, donc il faut redonner les enjeux. Les enjeux, c'est l'accord de Paris, la COP21, décembre 2015, la communauté internationale s'engage à faire en sorte que l'augmentation de la température moyenne à la surface de la planète à la fin du siècle n'excède pas plus de 2 degrés Celsius. Il est vraisemblablement trop tard pour qu'on reste en dessous des 2 degrés. La vraie question, c'est comment rester le plus proche possible des plus de 2 degrés. Combien ça va coûter ? C'est entre, disons, 50 000 et 90 000 milliards de dollars. pour les 15-20 années qui viennent. Donc c'est de l'ordre du PIB mondial, étalé sur 15 ans. Donc ça fait beaucoup d'argent. Est-ce qu'on a cet argent ? La réponse est oui. Est-ce que la sphère financière est prête à le financer ? La réponse est non, aujourd'hui.
Alors quand tu dis cet argent-là, oui, c'est-à-dire qu'on a la capacité de la créer, de faire de la dette ?
Alors, on a tous les moyens. On a la capacité de le créer et on a la capacité aussi d'aller le chercher, puisqu'il existe déjà. Je veux dire, la monnaie qui circule sur la planète aujourd'hui, c'est plus de 240 000 milliards. Parce que c'est de l'argent qui a été créé par les banques centrales, en particulier au cours des 10 dernières années, à la faveur des politiques monétaires non conventionnelles, dites du quantitative easing, l'assouplissement quantitatif, qui ont inondé les marchés interbancaires de liquidités et qui ont permis aux banques elles-mêmes de créer énormément d'argent pour aller jouer sur les marchés financiers. Donc il y a énormément d'argent qui circule. Il n'y a jamais eu autant d'argent sur la planète qu'aujourd'hui. Simplement, il est capté par le trou noir qui s'appelle les marchés financiers, où cet argent ne sert pas parce qu'il n'est pas investi dans l'économie réelle. On a plus de 90% aujourd'hui des transactions financières sur les marchés financiers qui sont des transactions entre financiers qui ne concernent pas l'économie réelle. Voilà. Donc, on peut aller chercher cet argent, ce capital qui existe déjà.
Comment ?
En faisant de la régulation financière et en médiocrisant, si je puis dire, le rendement des opérations purement spéculatives. Une fois que ça ne rapportera plus rien, cet argent-là va revenir vers l'économie réelle. Ça, c'est évident. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'on peut le faire en deux jours, mais disons, dans les grands principes, ça, c'est une option. Deuxième option, utiliser le pouvoir de création monétaire qui est à notre disposition, que nous avons. Et vu la gravité des enjeux, si on se dit que ce qui est en jeu, c'est ne pas arriver dans une situation où la survie de l'espèce humaine serait elle-même menacée, je crois que ça vaut la peine de se poser la question de savoir si la création monétaire ne peut pas être un outil utile pour financer à la fois la transition et l'adaptation au dérèglement climatique déjà embarqués. Alors c'est là que les propositions du type La Roture ou Jean Jouzel deviennent intéressantes. En fait, avec un ami qui s'appelle Alain Grandjean, il y a 7-8 ans, on avait déjà fait cette proposition, qui consistait à dire, écoutez, la Banque Centrale Européenne crée aujourd'hui des milliers de milliards pour les banques, pourquoi ne créerait-elle pas de l'argent pour financer des investissements verts ? Et j'ai moi-même fait une proposition au comité des experts pour le débat national sur la transition écologique qui avait été initiée par Delphine Batho, à l'époque, la ministre, qui était la suivante. Ce qu'on a fait avec la Société de financement de l'économie française, la SFEF, que je vais décrire dans un instant, pour sauver les banques en 2008, on pourrait le faire pour sauver la planète. Qu'est-ce qu'on a fait en 2008 ? En 2008, on a créé la SFEF en quelques jours. La SFEF, c'est une société de droit privé abondée par les banques qui avait la garantie publique. Qu'est-ce qu'elle a fait avec le capital des banques ? Elle a emprunté sur les marchés financiers au taux de la dette publique française, donc quasi nulle, de l'argent qu'elle a reprêté aux banques. À un moment où les banques étaient tétanisées par la... On est à ce moment-là en novembre 2008, tétanisées par la faillite de Lehman Brothers, se disent « je ne peux plus prêter à ma voisine parce que peut-être que ma voisine va faire faillite demain matin ». Donc, on plaçait dans une espèce de coma total le marché interbancaire, de sorte qu'il n'y avait plus aucune transaction interbancaire possible. Pour éviter le collapse généralisé, et en particulier la faillite de nos 4 champions nationaux, qui sans ça n'auraient pas traversé, n'auraient pas survécu à la Saint-Sylvestre 2008, l'État, à ce moment-là, construit en quelques nuits la SFEF, société de droit privé, qui emprunte sur les marchés avec la garantie publique, donc au taux d'intérêt de la dette française, donc quasi nul. Prête en un an plus de 70 milliards aux banques pour qu'elles puissent passer la Saint-Sylvestre. Ceci n'a pas été enregistré dans la dette publique, parce que c'était une société de droit privé. Et donc vous voyez l'astuce, c'est tu fais un truc, un objet qui est du droit privé, donc c'est de la dette privée, mais tu mets la garantie publique, et donc les investisseurs qui prêtent à cet objet-là, ça vient que derrière il y a l'État. Donc ils prêtent en exigeant le taux d'intérêt de l'État. Taux d'intérêt qui, pour la dette publique française aujourd'hui, est toujours nul, quasi nul, voire à certains moments a été négatif. Pas du tout à cause des vertus des finances publiques françaises, puisqu'on n'est pas, on est dans la moyenne de la zone euro, à 100% du PIB, donc on n'est pas plus ni moins vertueux que les autres, mais parce que les investisseurs internationaux ont besoin de diversifier leur portefeuille. Donc ils ont besoin de pouvoir mettre leur argent ou de prêter à de la dette publique en euros. Ceci étant dit, aujourd'hui, on pourrait très bien faire la même chose. On pourrait créer une société de financement de la transition écologique, société de droit privé, qui emprunterait sur les marchés avec la garantie publique. Ce serait de la dette privée. Ça n'affecte pas la dette publique. Et ça permettrait de financer les investissements verts. premièrement. Deuxièmement, ce qu'on pourrait très bien faire aussi, c'est négocier avec la Commission européenne la sortie du calcul du déficit public des investissements verts nécessaires à la survie de l'humanité. Est-ce que c'est compatible avec les traités ? Donc concrètement, ça voudrait dire qu'on ne compte pas dans le 3% de Maastricht les dépenses publiques liées aux investissements verts. Est-ce que c'est compatible avec les traités européens ? Réponse oui. Parce qu'en fait, les traités européens autorisent la Commission européenne à interpréter le périmètre sur lequel on calcule le déficit public d'un État. Jusqu'à présent, la Commission européenne a toujours interprété le calcul du déficit public en un sens maximaliste, qu'on met tout. Mais rien ne l'empêche demain matin de dire, bon, tout bien réfléchi, on n'est pas idiot, donc on sait très bien que les investissements verts, il faut les faire, que c'est un investissement utile pour l'humanité, donc ça, on le sort du calcul. D'ailleurs, la veille de l'acte 4, si je me souviens bien, des Gilets jaunes, en décembre dernier, le commissaire européen Pierre Moscovici a fait une intervention publique en disant « Bon, on comprend bien que les gens ne sont pas contents, mais en fait, vous savez, en réalité, on pourrait discuter du calcul du déficit public, de la manière dont il est fait, et on pourrait se montrer plus conciliant, de manière qu'on ne soit pas obligé de faire des coupes claires dans les dépenses publiques au nom du sacro-saint respect de la règle des 3%. » Donc il l'a dit, en fait. Et il a dit la vérité. Donc on pourrait très bien aujourd'hui, à périmètre des traités européens constants, renégocier avec Bruxelles, et donc aussi avec Berlin, bien évidemment, la définition même du déficit public que l'on calcule pour la règle des 3%. Et puis, troisième option, donc première option, on pourrait faire l'équivalent de la SFEF pour la transition. Deuxième option, on renégocie l'interprétation, l'herméneutique du déficit public. Troisième grande option, on utilise le pouvoir de création monétaire de la BCE. Donc la BCE a créé plusieurs milliers de milliards d'euros pour les banques, pourrait très bien créer la même quantité de monnaie juste pour sauver la planète. L'idée est voisine, mais un tout petit peu différente. L'idée, c'est de dire que la BCE fait de la titrisation pour les banques. Donc en 2014, la BCE s'est engagée à racheter les titres de créance des banques de quelque nature qu'ils soient. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'une banque privée accorde un crédit et elle se débarrasse du risque de non-remboursement du crédit qu'elle porte dans son bilan en transformant cette créance en un actif financier qu'elle va échanger sur les marchés. Pour ça, elle a besoin d'un acheteur qui lui achète son actif. La BCE a donné le signal en 2014, faites du crédit, on vous rachètera le titre de créance. Plus ou moins à n'importe quelle condition. Et à ce moment-là, moi j'ai eu une discussion avec François Hollande, où j'ai dit, mais monsieur le Président, il ne faut surtout pas faire ça. Ça, c'est refaire de la titrisation qui nous a envoyé dans le mur en 2008, parce que la grande crise des subprimes était essentiellement un problème lié à une titrisation tous azimuts qui a fait n'importe quoi, des châteaux en Espagne, des villages fantômes, etc. Donc il faut faire de la titrisation verte. Il faudrait que la BCE s'engage à racheter des titres de créance sur des investissements verts. François Hollande, à ce moment-là, m'a dit « Excellente idée, allez dire ça à notre ami Benoît Cœuré, qui est au board de la BCE, qui est un Français, que je connais bien, qui est un ami, type remarquable. » Voilà. Et puis, la difficulté, c'est qu'en faisant ça, on se heurte à une idéologie très très forte aujourd'hui, qui est la politique monétaire, c'est une politique universelle, tous azimuts, qui ne privilégie aucun secteur particulier, alors que le vert, ça serait un secteur particulier. Et donc, la réponse qui m'a été faite par la BCE, c'est il est hors de question qu'on fasse une politique monétaire verte. Pourquoi ? Parce que ce serait privilégier un secteur par rapport à un autre, et donc rompre les sacro-saints principes de la concurrence pure et parfaite. Ce qui est évidemment une énorme bêtise. Pourquoi ? Parce que le carbone, c'est universel. Et le vert, c'est universel. Tout doit devenir vert. Puisque si on veut avoir des chances de rester pas trop loin des plus de degrés à la fin du siècle, il faut qu'on ait, la neutralité carbone nette peu de temps que possible après 2050. Ça veut dire qu'après 2050, il faut qu'on émette plus du tout de CO2, ou bien que les émissions résiduelles de CO2 qui seront encore produites à ce moment-là soient entièrement captées, capturées et stockées.
Je te coupe un peu. Ouais. T'y crois à tout ça, là, tout ce que tu me racontes depuis une petite demi-heure là,
c'est fondamental. Je vois pas d'autres portes de sortie.
On se fait une bonne guerre, on envoie les pauvres se massacrer, on envahit le Luxembourg avec l'armée, on diminue la population mondiale et puis hop, c'est calé. On se fait une petite politique d'austérité histoire de calmer tout le monde. On consomme moins, on met tous des pulls et puis voilà.
Non, mais ça, il faut le faire.
Ça
suffit pas.
Une petite guerre.
Une petite guerre, on en aura. Il y en a déjà. Il faut regarder ce qui se passe en Syrie, l'effondrement du Venezuela. Tout ça n'est pas indépendant du dérèglement climatique. La Syrie, en fait, la guerre civile syrienne, c'est une énorme sécheresse entre 2007 et 2010, très très mal gérée par le gouvernement Bachar el-Assad, qui dégénère et qui suscite l'explosion sociale.
Il n'y a pas quelques vautours qui ont stimulé un peu tout ça, non, derrière ?
Mais bien sûr, mais je veux dire, de toute façon, le dérèglement climatique et les effondrements provoqués par la crise écologique ne vont pas se faire comme dans un film...
Ça provoque un peu.
Oui, mais tu as raison, mais ne vont pas se faire comme dans un film d'Hollywood où tout le monde va voir... Ce n'est pas le ciel qui va nous tomber sur la tête. C'est...
Jésus, il arrive quand, là ?
Mais Jésus, il est déjà là, dans la manière dont chacun...
Dans notre cœur.
Oui, dont chacun... prend conscience de la gravité de la situation et du fait qu'il y a... D'une certaine manière, c'est ce que tu dis, il y a deux grandes options. Il y a l'option « chacun pour soi et Dieu reconnaîtra les siens ».
Dieu pour tous.
C'est l'option de la violence, la guerre de tous contre tous, et le fantasme d'une petite île déserte où je pourrais aller me cacher avec mes enfants. Et il y a l'option de « on s'en sortira pas si on réapprend pas tous collectivement très très vite à être solidaires, à travailler ensemble, à créer des communs, de l'économie circulaire, de la permaculture, etc. » Mais ça, ça va aussi avec une puissance publique qui accepte de financer les infrastructures vertes dont on a besoin. Sinon, on n'y arrivera pas. Pourquoi ? Parce que les petits gestes du quotidien, j'aurais dû dire ça tout à l'heure, les petits gestes du quotidien et ce que tu as appelé les communautés hippies sympathiques, qui à mon avis sont indispensables.
Caricaturées à dessin.
Ah, ouais, pas de problème. Ça, ça nous permet de faire quoi ? Ça diminue notre empreinte carbone de 20%, 25% si on est héroïque. On met beaucoup de pulls, plus d'avions, plus de viande rouge, plus de viande blanche, etc. Mais 25%, ça ne suffit pas, il faut passer à zéro. Donc il ne suffit pas de passer de 100 à 75, il faut passer de 100 à zéro. Et pour ça, il faut que la totalité de l'électricité qu'on consomme, celle de ce truc qui m'éclaire, tout ça, la caméra, tout ça, ça provient d'énergie renouvelable. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
L'énergie renouvelable, comme tu l'aimes à les appeler, ouais. Quand on en discute avec les énergéticiens, ça les fait marrer. Quand on discute avec deux, trois autres, ils nous disent qu'il y a beaucoup de greenwashing, ouais. Green bullshit.
Juste, je termine ma petite démonstration de tout à l'heure. La BCE, qu'est-ce qu'elle devrait faire ? Et ça me permettra d'embrayer sur le greenwashing. Ce que devrait faire la BCE, c'est racheter les titres de créances vertes des banques. Comme ça, les banques ne portent aucun risque dans leur bilan. Elles peuvent faire du crédit vert autant qu'elles veulent. Ce n'est pas elles qui assument le risque, et c'est la BCE qui assume le risque. Évidemment, si la BCE fait des pertes, normalement, d'après les règles de l'euro, elle doit être recapitalisée par les pays de la zone euro au prorata de leur propre PIB. Bon, et c'est évidemment ça aussi qu'il faut renégocier. Je veux dire, il faut accepter de ne pas recapitaliser la BCE. Voilà, c'est des pertes qu'il faut assumer, parce que c'est des pertes nécessaires pour que nous apprenions la transition écologique. Alors, après, se pose la question de quels sont les investissements verts qu'il faudrait qu'elle finance. Est-ce qu'elle rachète n'importe quel type de créance ? La réponse est évidemment non, parce que malheureusement, notre imagination est sans limite pour faire du greenwashing. D'où viennent ces obligations vertes ? Malheureusement, probablement, de la volonté d'un certain nombre de financiers, après 2009, de faire croire à l'opinion publique que, enfin, la finance s'est mise au vert, est devenue vertueuse et sert à quelque chose. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les obligations vertes sont une immense opération de greenwashing. Donc, évidemment, il y a un vrai enjeu qui est déterminer, identifier, discerner quels sont les vrais investissements verts. Or, pour ça, on a un atout en Europe qui est la Banque européenne d'investissement, qui est une banque qui sait, qui a une vraie expertise dans les investissements verts, qui est unanimement reconnue. Et donc on pourrait très bien imaginer un dispositif dans lequel la BEI finance avec le secteur privé et les États les investissements verts dont nous avons besoin. Elle donne son label, ce qui est une garantie du fait qu'on ne fait pas du greenwashing. Et la BCE s'engage à racheter les titres de créances de la BEI de manière qu'elle puisse le faire à très très grande échelle. Ce dont on a besoin, c'est plusieurs milliers de milliards d'euros tous les ans au niveau de la zone euro. C'est des sommes colossales. Mais à moins de ça, on n'y arrivera pas. Je ne vois pas comment on passe d'un monde aujourd'hui où 80% de l'énergie que nous dissipons, c'est de l'énergie fossile, hydrocarbures, d'un monde où la consommation du charbon augmente sur cette planète, à un monde qui viserait la neutralité carbone en 2060.